Certaines personnes pratiquent un métier où elles ont une occupation à risquer. Un faux pas, et c'est la catastrophe. Pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas le cas. Mais il arrive quand même que nous devions nous engager dans des activités dangereuses qui peuvent causer un accident, comme se déplacer en voiture. Et on peut aussi se faire très mal en tondant le gazon, en coupant une haie ou en construisant un abri. Alors, comment s'y prendre pour limiter les dégâts? Le prédicateur de l'Ecclésiaste nous a déjà adressé plusieurs mises en garde. Je rappelle la première. Qui creuse un trou risque d'y tomber. Et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser avec. Et qui fend du bois se met en danger. Ecclésiaste 10, les versets 8 et 9. Au travers de ces métaphores, on voit très bien que la règle à observer est de prendre toutes les précautions nécessaires avant d'entreprendre quoi que ce soit qui puisse présenter le moindre danger. Le second conseil à observer est de faire des préparatifs adaptés à la tâche envisagée. Je rappelle également ce verset. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Ecclésiaste 10, verset 10. Je continue maintenant de lire dans le chapitre 10 du livre de l'Ecclésiaste avec la troisième mise en garde du prédicateur. Si le serpent mord faute de charme, il n'y a aucun avantage à recourir au charmeur. Ecclésiaste 10, verset 11. Je n'ai jamais eu l'occasion de me rendre en Inde, mais les films ou reportages que j'ai pu voir sur ce pays mettent immanquablement en scène un charmeur de serpents parce que c'est une figure typique de l'Inde. Le fakir ondule sans cesse sa flûte et en même temps il joue une sorte de mélodie triste dont le but est d'envoûter le serpent. Généralement, un cobra, et de le faire sortir de sa corbeille en se tortillant comme s'il dansait. Le serpent, non pas d'ouïe, mais il perçoit les vibrations du son et sont sensibles au mouvement de la flûte. Le cobra, ainsi bercé, est moins agressif. Cependant, si le serpent mord faute de charme, c'est que le fakir n'a pas fait son travail correctement. Ce qui nous conduit à la troisième règle à observer avant de se lancer dans une entreprise risquée. Il faut agir au moment opportun. Si vous pouvez choisir vos horaires de travail et quand faire vos courses, prenez la voiture hors des heures de pointe, lorsque la circulation est plus fluide. Là aussi, ça coule de source. La sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. A déjà dit le prédicateur, à condition qu'elle soit appliquée au bon moment. Quelqu'un peut avoir beaucoup de bon sens et être de bons conseils grâce à son expérience de la vie. Mais ses qualités ne lui servent à rien s'il perd son sang-froid ou s'il est trop perturbé pour réfléchir. L'image du charmeur de serpent est également utilisée par le prophète Jérémie et le psalmiste. Je lis ces passages. « Je vais envoyer contre vous des serpents venimeux, des vipères que nul ne peut charmer. Ils vous mordront. » L'Éternel le déclare, ce sera sans remède. Jérémie 8, verset 17. « Dès le ventre de leur mère, les méchants s'égarent depuis leur naissance. Ils profèrent des mensonges. Ils sont venimeux, comme des serpents. Ils se bouchent les oreilles, comme la vipère sourde qui ne veut pas écouter la voix des charmeurs et de l'enchanteur expert dans son art. » Psaume 58, les versets 4 à 6. Le terme « serpent », surtout si on y ajoute « sonnette », désigne les impies et décrit très bien un traître comme Judas. C'est aussi ce que sera l'Antichrist envers la nation d'Israël à la fin des temps. J'ai moi aussi rencontré des personnes qui sont tordues au point où on croirait qu'elles ont le diable au corps. On a beau être aussi sympa que possible avec elles, de toute façon, elles se retourneront contre vous et vous mordront. Les Écritures mentionnent un certain Ahithophel, conseiller de David et pendant longtemps son ami. Mais quand Absalom, le fils du roi, se rebelle contre son père et formant un coup d'État contre lui, Ahithophel tourne Kazak, lâche son maître et se joint aux conspirateurs. Cette trahison porte un coup terrible à David, non seulement parce qu'il le considérait comme un ami sûr, mais aussi parce que c'était un excellent conseiller. En effet, dans le second livre de Samuel, on lit « En ce temps-là, le conseil d'Ahithophel avait d'autant d'autorité pour David comme pour Absalom qu'une parole de Dieu lui-même. » De Samuel 16, verset 23. C'est lors de cette terrible épreuve que, dans un psaume, David écrit « Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon ami et mon intime, avec qui j'échangeais des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements. Sa bouche est pleine de douceur. Elle est plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. » Psaume 55, les versets 13 et 15, 21 et 22. Moi aussi j'ai été trahi par un ami, et peut-être que vous aussi. C'est pourquoi il faut se montrer très prudent dans le choix de ses confidents et fuir comme la peste les gens qui prennent un parti de ce que vous leur dites et la répètent en la tordant à qui veut bien l'entendre dans le but de vous faire du mal. Et c'est encore pire quand il s'agit d'un membre de votre famille qui agit ainsi. Essayer de se défendre est non seulement inutile, mais suscite des attaques encore plus vicieuses. Je continue de lire dans le chapitre 10 de l'Ecclésiaste. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais par sa bouche, l'insensé s'avale lui-même. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. Le sot multiplie les paroles. L'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qu'il arrivera après lui. Ecclésiaste 10, les versets 12 à 14, comparé avec Proverbe 10, verset 19. Auparavant, le prédicateur a préconisé la sagesse dans toutes les activités qu'on entend. Ecclésiaste 10, les versets 8 à 11. Maintenant, il recommande aussi la plus grande prudence dans les paroles. Quelqu'un qui a du bon sens et qui donne un avis s'attire la faveur générale. Mais celui qui parle pour ne rien dire et qui a la langue méchante est l'artisan de son propre malheur parce qu'on finit par le mépriser. Quand dans un groupe, quelqu'un lance un sujet de discussion, il y a toujours une andouille qui s'empare du crachoir et ne le lâche plus. Il palabre et à force de parler, il dit forcément de stupidité. Mais s'il est contredit, il se rebiffe, parle encore plus vite et devient arrogant tout en disant des âneries sur des sujets qu'il ne connaît pas. Devant ce flot de paroles, personne n'ose plus rien dire et tout le monde souhaite qu'on en finisse au plus vite. Ce genre de personnage est à éviter comme la peste. Supposez que vous fassiez une promenade champêtre et que vous découvrez un engin de guerre non explosé. Vous allez vous en écarter aussi le plus vite possible et au pas de gymnastique. En tout cas, c'est ce que je ferai. Eh bien, il faut agir de même avec un insensé, parce que ce qu'il dit peut être dangereux. Si vous le fréquentez de trop près, il va mêler votre nom à ces inepties qui risquent de vous revenir sous une forme explosive. Dès que nos enfants ont commencé l'école, nous avons fait très attention à leurs copains, copines et encore davantage au moment de l'adolescence. C'est malheureux à dire, mais il y a des gens qui sont comme le cobra. Tant que vous leur susurrez ce qu'ils veulent entendre, tout va bien. Mais dès que vous arrêtez de jouer leur air de musique, ils vous mordent. Je continue le texte. Le travail de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville, Ecclésiaste 10, verset 15. Savoir comment aller à la ville est une expression proverbiale qui signifie avoir de la sagesse pratique. Mais l'insensé est tellement stupide qu'il est incapable de faire les choses les plus simples à cause de son manque de jugeote. Il ne sait pas organiser son travail. Déjà, il ne prend pas les précautions les plus élémentaires. Ecclésiaste 10, les versets 8 et 9. Il monte sur n'importe quoi au lieu de chercher un tabouret stable. Ensuite, il ne fait pas de préparatifs en vue de ce qu'il veut accomplir. Ecclésiaste 10, verset 9. Par exemple, il peindra directement sur une surface qui s'écaille sans l'avoir préalablement préparée. Et puis, il ne choisit jamais le bon moment. Ecclésiaste 10, verset 11. S'il fait un travail extérieur en plein été, il reste en plein soleil au lieu de suivre l'ombre. Pas étonnant que son travail soit si pénible. Ça me rappelle l'époque de l'Empire soviétique. J'ai lu quelque part que les agriculteurs devaient alors labourer leurs champs à une date fixée par le parti. Peu importe le temps. Cela veut dire que même si les terres sont sous 20 cm d'eau à cause de pluies torrentielles, le paysan doit quand même sortir le tracteur. Et pour l'époque des semences, c'est pareil. Je continue. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est de race illustre et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour se repaître. Ecclésiaste 10, les versets 16 et 17. On a un texte semblable dans le livre du prophète Ésaïe, je le lis. Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir à la boisson, qui s'attardent le soir, ivres de vin. Ce ne sont que harpe et cithare, tambourin et flûte, et du vin pour leur beuverie. Ésaïe 5, les versets 11 et 12. Un pays tombe dans le malheur quand les raffinements voluptueux prévalent à la cour. Quand une nation est dirigée par des blancs-becs capricieux, incompétents, indisciplinés et intempérants, elle court à la ruine. Il y a trop de cocktails partis parmi nos dirigeants. Ils profitent de leur position pour baigner dans le luxe aux frais de la princesse, puisque ce sont les contribuables qui paient les frais. « Noblesse oblige, disent-ils, mais on préférerait une démonstration de vertu de la part de nos élus. » Je continue. Avec deux mains paresseuses, la charpente s'effondre. Et quand on a les bras ballants, il pleut dans la maison. Ecclésiaste 10, verset 18. La nation est comparée à un édifice qui menace de tomber en ruine à cause de la négligence de ses dirigeants. Bien sûr, cette sentence peut aussi s'appliquer à un individu qui ne fait rien de ses dix doigts. Proverbe 10, verset 4. En France, c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. On pense au week-end et on prépare les vacances. Et à 50 ans, pour certains, c'est déjà la retraite. Tout le monde tire un maximum sur la corde, ce qui fait que, au bas mot, notre pays a une dette de 1 000 milliards d'euros. Je continue le texte. On prépare un repas pour se réjouir. Le vin égaie la vie et l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, verset 19. On aimerait que cette sentence ne s'applique pas aux dirigeants avides qui tirent un profit personnel de leur charge et qu'elle s'adresse plutôt à nous, le commun des mortels. C'est aussi un rappel des petits bonheurs que Dieu nous donne sur cette terre. Si l'argent répond à tout, il faut travailler pour en gagner afin de pouvoir dresser une belle table et sortir une bonne bouteille. Je finis de lire le chapitre 10. Ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants, même dans ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles, et l'espèce ailée divulguerait tes propos. Ecclésiaste 10, verset 20. Matthieu rapporte que Jésus a dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle. » Matthieu 12, verset 34. Celui qui entretient de mauvaises pensées à l'égard du dictateur de service risque fort de dire ce qu'il devrait taire. Ses propos vont alors se retourner contre lui, car comme chacun sait, les murs ont des oreilles, non seulement dans les États despotiques, mais aussi dans certains pays dits libres. Je ne sais pas en France, mais aux États-Unis. Quand Bush, fils, était président, il a mis un paquet de monde sur top d'écoute. Cependant, même si nos dirigeants sont à vendre, nous devons respecter leurs fonctions. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit « Révérez Dieu, respectez le roi. » 1 Pierre 2, verset 17. Jusqu'ici, le prédicateur a souvent recommandé la prudence, mais à partir de maintenant, il préconise un peu d'audace et du dynamisme à celui qui veut profiter de la vie. L'un dans l'autre, la bonne course d'action est toujours la même, la voie médiane. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Je commence à lire le chapitre 11 de l'Ecclésiaste. « Lance ton pain sur les eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Partage ton bien avec sept autres et même avec huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Ecclésiaste 11, les versets 1 et 2. L'auteur n'a pas à l'esprit un zoo avec son petit étang, où s'ébattent les canards et que les visiteurs leur jettent du pain rassis. D'ailleurs, une version anglaise dit « Envoie tes céréales par toutes les mers, New English Bible ». L'exhortation du prédicateur est de ne pas accumuler des richesses pour rien, c'est-à-dire de ne pas laisser l'argent dormir, mais de le faire travailler en l'utilisant de deux façons différentes. En premier lieu, il recommande la bienfaisance envers des personnes démunies parce que Dieu récompense celui qui a pitié des pauvres. Proverbes 11, 24, 19, 17, 22, 9. Psaume 112, verset 9. Galates 6, 9. 1 Timothée 6, les versets 18 et 19. Un certain Ratisbonne a judicieusement dit « Joindre les mains, c'est bien, mais les ouvrir, c'est mieux. » En second lieu, le prédicateur préconise l'esprit d'entreprise. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais diversifier ses investissements dans plusieurs secteurs de l'économie, parce que nul ne connaît l'avenir, ni les tragédies qui peuvent survenir. Une catastrophe naturelle, une guerre, un acte terrorisme, qui sait? Avec cette double approche, d'une part, je limite les pertes de capital, et d'autre part, je me fais des amis qui, en cas de revers de fortune, me renverront l'ascenseur. Jésus a donné une parabole au sujet d'un gérant de biens qui en réalité était un escroc et s'est fait licencier. Mais avant de quitter son poste, il a su utiliser sa position d'autorité pour gagner l'amitié et la reconnaissance des débiteurs de son patron, tout en escroquant davantage ce dernier. Luc 16, les versets 1 à 9. Je continue. « Quand les nuages sont pleins, il pleut à verse sur la terre. L'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui guette sans cesse le vent n'ensemencera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. » Ecclésiaste 11, les versets 3 et 4. On ne peut pas toujours attendre des conditions idéales pour agir, et souvent on est obligé de faire même dans des circonstances défavorables. Néanmoins, on doit quand même tenir compte de la météo. Par une pluie battante, l'agriculteur indépendant ne sort pas le tracteur au risque de s'enliser. Cependant, il ne reste pas non plus à se croiser les pouces. Il s'occupe dans sa grange et s'assure que tout son matériel est en bon état. S'il fait du vent de tempête, on ne peut évidemment pas semer à la volée. Mais, comme de nos jours, le semis est mécanique, le vent ne gêne pas, et s'il y a un arbre en travers du chemin, on le pousse de côté soi-même, car si on compte sur la maréchaussée pour s'en occuper, on risque d'attendre longtemps. On ne doit donc pas rester les bras ballants parce qu'une tempête fait rage ou à cause de n'importe quelle autre adversité. Non, on fait avec, en la contournant l'absence de conditions idéales et l'incertitude de l'avenir ne justifie pas l'inaction. Comme dit le feuilleton, fais ce que dois et laisse à Dieu le reste. Je continue. Tu ignores quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Ecclésiaste 11, verset 5. Le prédicateur mentionne ici trois énigmes. Le premier est les circuits du vent qui a déjà mentionné dès le premier chapitre. Ecclésiaste 1, verset 6. Le second mystère est la formation d'un être humain dans le ventre de sa mère. Psaume 139, verset 13 à 18. Grâce à des technologies de pointe, on voit ce qui se passe, mais nous avons plus d'interrogations que de réponses, et la naissance d'en haut pose encore davantage de questions. Jean rapporte que Jésus a dit au chef juif Nicodème, « Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. » Jean chapitre 3, verset 8. Le troisième mystère est l'œuvre de Dieu. Ésaïe 55, verset 9. Nul ne peut comprendre ce qu'il est en train d'accomplir sur terre. Comparez Ecclésiaste 3, 11, 8, 17. Mais ce que nous savons par contre est qu'il dirige tout avec sagesse. Si donc je me conforme aux règles de la sagesse, je serai sur la bonne voie. Je continue le texte. Dès le matin, répands ta semence et, jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. Ecclésiaste 11, verset 6, comparé de Corinthiens 9, 6. Je dois travailler sans relâche, sans laisser ce que je ne connais pas perturber ce que je sais. Je passe le plus clair de mon temps devant un ordinateur. J'arrive à peu près à m'en sortir, mais je ne comprends pas vraiment comment il fonctionne. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai un antivirus, un spyware ou un firewall, et d'autres anti-ceci ou cela. Mais je sais que je n'ai pas d'antimite, et parfois souvent même, quelque chose ne fonctionne pas normalement, mais tant que je peux continuer à faire mon travail, ce que j'ignore n'a aucune importance. L'activité humaine implique des efforts et des sacrifices dont les récompenses sont aléatoires et dans un avenir plus ou moins lointain. Psaume 126, verset 5, 1 Corinthiens 9, les versets 10 et 11. Mais les incertitudes de l'avenir ne doivent pas ralentir mon ardeur, car le présent est le seul moment qui m'appartient. Ne sachant pas si c'est le travail du matin ou celui du soir qui rapportera, je dois œuvrer de l'aube au crépuscule, sans relâche. La philosophie épicurienne, Carpe Diem, qui, par le poète latin Horace, dans les Odes 11-8, cueille le jour, c'est-à-dire profitez du temps présent ou cueillez quand vous pouvez les roses de la vie, est un conseil qui n'est pas très éloigné de l'exhortation de l'apôtre Paul. Rachetez le temps. Colossiens 4, 5, comparé Éphésiens 5, verset 16. Je continue. Douce est la lumière, et il est bon de voir le soleil. C'est pourquoi, si l'homme vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qu'il est à venir est dérisoire. Ecclésiaste 11, les versets 7 et 8. Le prédicateur revient à nouveau sur le thème du bonheur. Ecclésiaste 2, les versets 24 à 26, 3, 12 et 13, 22, 5, 18 et 20, 8, 15, 9, 7 et 9. Il nous exhorte à profiter des plaisirs simples de notre vie quotidienne. Ne serait-ce que la lumière du jour, tant qu'on le peut, avant que la vieillesse et son cortège de difficultés ne fasse son œuvre pour finir par la mort. Ecclésiaste 11, les versets 9 et 12, verset 7. Psaume 39. Ce n'est pas très réjouissant. J'en conviens. Mais le prédicateur est réaliste. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il y a un temps pour tout. Mais il sait aussi que l'homme qui fait un joyeux usage de la vie sous le regard de Dieu est aussi celui qui sortira des ténèbres du séjour des morts. Je finis de lire le chapitre 11. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse, comme l'aurore, passe bien vite. Ecclésiaste 11, les versets 9 et 10. Ce passage devrait faire partie du premier chapitre du livre parce que c'est le début de la fin de la démonstration dans laquelle le prédicateur met en opposition la jeunesse et la vieillesse. Il recommande aux jeunes de profiter de la vie et de tous ses plaisirs, mais il y a un gros mais. Profiter de la vie, oui, mais en tenant compte du fait que nous serons jugés par Dieu sur la façon dont nous avons vécu. Les grandes décisions qui affectent le cours d'une existence sont souvent prises quand on est un jeune adulte. Combien jettent alors leur vie à la poubelle, pour ainsi dire, parce qu'ils font des mauvais choix. La vie est un don précieux que Dieu dispense un jour après l'autre, ou plutôt une seconde à la fois. Et le meilleur usage qu'on puisse en faire est de contribuer à la gloire de Dieu. Car tel est le but de l'homme, glorifier Dieu et jouir de sa personne pour l'éternité.